le grain de sable. Pensée globale. Une émission proposée par l'association Atacrone. Agir local. Le grain de sable.
Le grain de sable d'Atacrone. Aujourd'hui, notre sujet sera la situation en Grèce, avec pour invité Eleni et Armand du comité de soutien au peuple grec. Déjà, on va commencer par faire les présentations, donc un petit peu revenir sur l'origine du comité, qui le compose, vos objectifs et puis aussi vos modes d'action.
Oui, bonsoir, merci de nous avoir invités à cette émission. Juste un petit rappel, donc le comité de soutien au peuple grec s'est créé en février 2015, donc suite à la victoire de Syriza. À quelques-uns, nous nous sommes retrouvés après un rassemblement qui s'est déroulé place des Terreaux, donc dans un bar, pour voir ce que nous pouvions mettre en place. Ce comité a pour but d'organiser la solidarité, bien sûr, avec le peuple grec, afin que la ligne politique, je dirais, anti-austérité, qu'il a choisie le 25 janvier et réaffirmée par les formidables mobilisations qui ont abouti au non massif du mois de juillet, soit un succès. Bon, comme vous le savez, la Grèce est actuellement placée sous tutelle, sous prétexte de sa dette, qui est pourtant jugée illégitime, illégale et odieuse par la Commission internationale pour la vérité sur la dette publique. Et plus que jamais, les institutions et gouvernements européens, en particulier français, imposent bien sûr leur politique d'austérité. Donc le but, c'est d'informer régulièrement sur l'évolution de la situation sociale et politique en Grèce, impulser diverses formes de solidarité avec le peuple grec, telles que des initiatives de rue, lutte, enfin soutien financier, etc.
Et sur l'information, vous avez un site internet, par exemple?
Tout à fait. Alors nous avons un site internet, enfin plutôt une page Facebook, donc www.facebook.com. Comité de soutien au peuple grec Lyon, et nous avons même une adresse email contact.cspg@laposte.net.
Et donc, pour revenir sur les types d'actions, donc aussi des mobilisations, donc de rue,
tout à fait,
manifestations,
tout à fait.
Je peux compléter?
Vas-y.
Si tu veux, bonjour. Oui, effectivement, notre ligne de conduite, c'est comme l'a dit Eleni, c'est à la fois de faire le travail d'information en Grèce et le lien complet avec nous ici, ce qui se passe ici, ce qui se passe en Europe, puisqu'on part du principe que le peuple grec a besoin de nous et que nous avons besoin du peuple grec. Et ça veut dire, par exemple, que effectivement, nous étions plusieurs fois dans la rue, nous avons une banderole non à l'austérité, et nous étions le 1er mai dans la rue, nous étions également la veille du référendum, nous avons distribué des tracts. Le soir même, après les résultats du référendum du 5 juillet, nous étions contents, nous étions dans la rue. Et puis depuis, c'est vrai que c'est un peu plus compliqué.
Mais d'ailleurs, justement, quand on parle d'information, on va revenir justement sur tous les événements. Donc un été très agité depuis le mois de juin. Donc un peu refaire un historique, parce que je pense qu'aussi on a du mal parfois à comprendre certains retournements et savoir ce qu'il en est aujourd'hui. Donc, je ne sais pas si vous voulez commencer. Il y a eu la fermeture des banques en juin, qui a été un moment assez...
Alors, tout à fait.
Assez frappant.
Bon, ce qui s'est passé, c'est que à la suite donc des négociations qui ont été menées avec l'Eurogroupe et le gouvernement de Tsipras, négociations très difficiles puisqu'il y a eu un très très gros chantage, eh bien la BCE, la Troïka, toutes les institutions européennes ont décidé de fermer les banques. Ce qui veut dire que
c'est pas une décision du gouvernement grec.
Ça non, s'est absolument. Fait par l'extérieur. Oui, ça s'est fait par les institutions européennes parce que aucun accord n'était finalisé, tel que les institutions le souhaitaient. Donc cette décision a malheureusement fait en sorte que les Grecs ne pouvaient pas, enfin avaient un certain montant pour retirer de l'argent, genre entre 50 et 60 euros par jour, voire 420 euros par semaine. Donc, ce qui compliquait encore plus le quotidien des Grecs.
Et quel est l'objectif recherché ? C'était que les gens partent pas avec leur argent pour aller le mettre.
Oui, il y avait aussi ça. Hein, donc un contrôle des capitaux, voilà. Donc
tous les capitaux, même les capitaux de tout le peuple grec.
Tout à fait, tout à fait.
Ben si vous voulez, ce qui s'est passé, c'est effectivement, on est au cœur du sujet là. C'est-à-dire que le mandat qu'avait le gouvernement de Tsipras suite aux élections du 25 janvier est confirmé par y compris le référendum historique où plus de 60% se sont prononcés pour le non à l'austérité. Le mandat qu'il avait, c'était effectivement de négocier dans le cadre de l'Union européenne, dans le cadre des institutions, de négocier effectivement quelques mesures de desserrement de l'étau dans lequel l'avaient plongé les deux mémorandums précédents qui n'avaient rien résolu puisque l'avait les deux mémorandums précédents qui étaient tous basés sur des politiques d'austérité massive. On était dans une situation où la dette, au lieu de diminuer, était passée de 120% à 175% de la richesse. Donc, il y a un bradage de la richesse du pays. Toutes les mesures de privatisation qui avaient déjà été amorcées faisaient qu'effectivement, ça résolvait rien du point de vue économique. Et au contraire, on avait une explosion du chômage. Il faut le rappeler, ça. On avait perte des salaires de 25%, perte y compris et attaque profonde sur les pensions, une situation y compris sanitaire dramatique. Qui faisait que la Grèce avait y compris des aspects de pays sous-développés avec une crise humanitaire. C'est tout ça qu'a amené Syriza au pouvoir sur le fait de refuser ces mesures-là. Et le problème, effectivement, et ça c'est bien le problème qu'il faut discuter, c'est qu'effectivement, comment se fait-il qu'après avoir eu 60% un référendum pour le non, Tsipras, alors certes, le pistolet sur la tempe, mais enfin, il a capitulé et il acceptait un plan d'aide qui n'est pas une aide. C'est un troisième mémorandum de réforme structurelle. C'est des politiques d'austérité encore pires. Alors, quel est le seul élément positif de cette affaire? C'est effectivement, en contrepartie, il a obtenu 86 milliards d'euros sur 3 ans, mais sous condition. Et c'est bien ça qui est terrible, c'est qu'on est dans une situation où si on en est arrivé là, et on pourra en discuter tout à l'heure, même si nous on rentrera pas dans le choix que doivent faire les Grecs puisqu'ils vont voter dimanche, hein, mais nous disons que du point de vue de ce qu'on a expliqué, c'est-à-dire des tâches de solidarité, de refus des politiques d'austérité en Grèce et en Europe qui sont des politiques qui mènent à la destruction les peuples, bien, on le voit, la Grèce était le laboratoire, et pour boucler sur la question que vous avez posée, on a bien vu que c'était pas un problème économique. C'est pas le poids de la Grèce, c'est 3% le PIB de la Grèce, c'est 3% de celui de l'Union européenne. C'était pas un problème économique. Il pourrait effacer la dette grecque d'un revers de main, et d'ailleurs même le FMI dit qu'ils pourront jamais la payer. Donc pourquoi ils s'acharnent comme ça? Ils s'acharnent parce qu'il fallait démontrer qu'un gouvernement de gauche radicale ne pouvait pas défier les libéraux qui ont décidé de construire cette Europe comme l'Europe de la concurrence libre et non faussée, et au prix de détruire des acquis sociaux et de détruire ce qu'était y compris le projet européen, c'est-à-dire une solidarité entre les peuples. Et ce qui est terrible, c'est qu'ils ont commencé à le démontrer, effectivement, en serrant la vis, en mettant le système financier et bancaire grec en crise totale et en faisant le chantage au chaos.
Oui, ben justement, on s'est dit 3% et on nous ferait croire qu'à cause de la Grèce, toute l'Europe pourrait s'effondrer, qui est effectivement un chantage parce qu'on nous dit ça pourrait être la même chose que pour vous. Mais cette histoire de 3% qui ne représente pas grand-chose, ils s'en sont aussi servis en disant c'est important, ça pourrait mettre l'Europe en danger, pour dire c'est pas très important, leur choix démocratique... L'Europe peut passer au-dessus. Et quand on parle de solidarité, ça pose la question autant des politiques d'austérité chez nous que de ce que nos représentants dans l'Europe font par rapport à la Grèce.
Ça pose la question, juste dans la parole à Eleni, ça pose la question de ce qu'est l'Europe aujourd'hui. Cette Europe ne peut plus continuer comme ça. C'est ce qui s'est passé, c'est un coup d'État financier, un coup d'État contre la démocratie, c'est-à-dire que ce qu'ont fait les institutions de l'Union européenne, c'est étrangler le gouvernement grec et le peuple grec pour faire la démonstration que hors du libéralisme, il n'y a pas de salut. Donc c'est de l'idéologie, c'est de la politique, et c'est donner un signal qu'on ne peut pas avoir d'alternative, c'est du thatchérisme, on ne peut pas avoir d'alternative à des politiques d'austérité massive qui, d'après eux, sont la solution. C'est des logiques, des politiques monétaristes qui ont fait faillite, qui montrent leur inefficacité, qui vont encore le montrer, et on s'enfonce dans ces logiques-là au mépris de ce... Et c'est ça qui est très important, il y a une prise de conscience que, c'est, à une échelle large, les gens disent « mais c'est pas ça l'Europe, quoi ».
Et là, en étant en Grèce, en ayant été en Grèce pendant un mois cet été, ce que vient de dire Armand, là, ça se confirme, hein, lorsqu'on a discuté avec les Grecs, ils n'en peuvent plus. Je veux dire, eux, pour eux, l'Europe, c'est pas ça. C'est pas, pardon, une application de politique ultralibérale qui mène à la récession. D'ailleurs, le troisième mémorandum qui a été signé dernièrement par Tsipras, donc le plan qui prévoit, tu l'as très bien dit Armand, 86 milliards d'euros sur 3 ans. Il faut savoir qu'en fait la première tranche qui a été versée dernièrement a servi à recapitaliser uniquement les banques. Rien pour le peuple, rien.
Mais en fait ces 86 milliards, c'est pas la Grèce qui décide de ce qu'elle en fait, de toute façon.
Absolument. Il faut ne pas perdre de vue aussi qu'aujourd'hui la Grèce est sous protectorat.
Donc, sous tutelle.
Sous protectorat, c'est-à-dire aujourd'hui, la Grèce, et c'est de plus en plus marquant, ne peut plus adopter une loi nationale sans que les institutions européennes s'en mêlent. Donc, avant d'adopter une loi, elle sera d'abord déchiffrée, lue par la Troïka, et si la Troïka accepte, ok, cette loi sera passée. Sinon, ça ne passe pas. Et donc, toujours pour revenir sur ce troisième mémorandum, il faut savoir que ce plan prévoit un an et demi de plus de récession. Donc déjà, la Grèce a tout perdu. C'est un pays qui a été entièrement vendu, puisque, je pense que vous le savez, mais il y a beaucoup de patrimoine grec qui a été privatisé. Des aéroports, le port du Pirée, hein, j'en passe. Voilà. Et donc, c'est vrai que le choix qui a été fait par le gouvernement d'Alexis Tsipras de signer ce mémorandum était une erreur politique.
Mais comment, justement, comment on est arrivé là? C'est pas Tsipras tout seul qui a décidé.
C'est très long à expliquer. Je vais pas rentrer dans les détails, mais déjà, il faut savoir que, il y a eu un accord, un préaccord qui a été négocié plus ou moins le 20 février dernier, et entre les créanciers, la Commission européenne, donc la Banque centrale européenne et le gouvernement grec. Et là, il s'agit d'un accord par lequel le gouvernement grec s'engage à respecter le calendrier des paiements qui devaient à la BCE. Donc déjà, ça a commencé par là. Et bien sûr, sous condition, avec des réformes structurelles très...
Donc sur les impôts, sur les retraites,
voilà.
Les
privatisations, etc.
L'augmentation de la TVA.
Alors, justement, l'application de l'augmentation de la TVA a été immédiate. Alors, je vais vous donner un exemple. Sur les îles, la TVA était à 13%. Aujourd'hui, elle est passée à 16%. À terme, elle sera... harmonisée avec la TVA générale que l'on trouve, parce que ça c'est compliqué hein, en Grèce, que l'on trouve sur le continent qui est à 23%. Donc à terme de 13, par exemple sur les îles, de 13 on va passer à 23%. Imaginez-vous en France avec une TVA à 29%, 10 points de plus, alors que l'on sait très bien que la TVA est un des impôts le plus injuste. Voilà, ça c'est un premier point. Deuxième point, bien sûr, encore une reculade sur les pensions de retraite. Et l'effet va se faire sentir dès l'automne, là. Donc déjà, les pensions de retraite étaient diminuées d'environ entre 35-40% en fonction du montant. Aujourd'hui, il n'y aura plus de retraite complémentaire, c'est terminé. Donc ça va encore chuter. Et ça va faire chuter, bien entendu, de fait, le pouvoir d'achat des Grecs. Je peux vous donner d'autres exemples de ce qui a été signé sur ce troisième mémorandum. Donc, j'ai déjà dit que la Troïka exige aussi le contrôle total du budget grec. Il prévoit aussi de revoir le code de procédure civile, c'est-à-dire revoir toutes les procédures et modalités dans cette matière-là. En clair, cela va faciliter d'ici peu, dès cet automne, les saisies, les expulsions et la liquidation de milliers de maisons et de lieux d'activité dont les propriétaires ne sont pas en capacité de payer le remboursement des emprunts. Là aussi, on tape dur.
En gros, c'est presque des expropriations. Qui réacquit aux créanciers directement aux banques.
Directement aux créanciers, donc de facto aux banques. Il y a aussi un autre point qu'il ne faut pas oublier, et cela concerne le travail. Puisque la Troïka, la Commission européenne, toutes ces institutions européennes qui, je rappelle, ne sont pas élues, souhaitent moderniser le peu de conventions collectives de travail qui existent. En clair, ça veut dire qu'il ne faut plus de négociations collectives, interdire tout ce qui est action syndicale, également donner tous les pleins pouvoirs, sans passer par une loi, aux employeurs pour des procédures de licenciement.
Alors, je vais être un peu naïve, mais je pouvais penser que l'Europe avait des garde-fous et des garanties en matière syndicale dans l'ensemble des pays européens. Et en fait, elles ne s'appliquent pas forcément
là,
à tous.
Voilà, tout à fait. Et comme l'a dit Armand tout à l'heure, n'oublions pas, ne le perdons pas de vue, la Grèce a toujours été un laboratoire. Et c'est ce qui aussi risque de nous arriver en France et puis dans d'autres pays européens.
Oui, moi je voudrais ajouter une chose aussi sur le problème de la dette, parce que effectivement les médias et la campagne qu'on a, qui est une campagne d'intoxication depuis des années et des années, c'est d'expliquer, mais enfin c'est grec, regardez, ils sont dépensieux, ils sont paresseux, ils travaillent pas, et ils ont une dette, on leur donne des sous, et puis ils ont encore une dette encore plus grande.
C'est un peu le cliché, c'est le pays où on va en vacances, donc voilà. Tout le monde est en vacances là-bas, voilà. Et pense que c'est certain.
Alors moi je pense qu'il faut remettre des pendules à l'heure, c'est-à-dire que le stock nominal de la dette grecque, sans être économiste, il a diminué depuis 2011. Le problème, c'est le rapport de la dette à la richesse nationale qui s'est effondré. Et les créanciers, c'est-à-dire essentiellement les pays de l'Union européenne, les banques, l'Europe et les États-Unis, les créanciers l'expliquent par un manque de réformes. Et pour eux, évidemment, les réformes, c'est les politiques d'austérité encore plus aggravées. Premier mémorandum, deuxième mémorandum, et maintenant ce fameux accord du 13 juillet qui est un troisième mémorandum encore aussi terrible que les premiers. Or, le problème, c'est que si on regarde la vraie difficulté, c'est que du point de vue de la trajectoire des finances publiques grecques, elles se sont redressées, contrairement à ce qu'on pourrait croire, et le pays dégage un excédent primaire, pour parler comme ça, structurel. Mais le problème, c'est pas ça. Le problème, qu'en réalité, ce sont ces réformes, soi-disant réformes, c'est-à-dire des politiques d'austérité, des coupes aveugles dans la dépense publique, dans les services publics, qui effectivement font chuter le produit intérieur brut et rendent insoutenable la dette, qui ne arrête pas d'augmenter. Et du coup, crée une crise de confiance qui fait qu'il n'y a pas d'investissement, y compris parce que le pays est économiquement saccagé. Et donc, on a une spirale de récession infernale. Et donc, c'est un plan voué à l'échec. C'est ça qui est terrible. C'est un plan voué à l'échec.
Oui, c'est le laboratoire qui montre que si on enlève les dépenses publiques, eh bien, on fait chuter la richesse d'un pays.
Voilà. On met le pays à feu et à sang. Et on le vend par département. C'est-à-dire qu'effectivement, on a la même mise de la finance. Et on voit bien que cette Europe-là, depuis le début avec ses traités, ce qui a dominé maintenant, ce qui domine, c'est des logiques financières, c'est les banquiers, c'est l'Europe des banquiers. C'est une Europe qui n'est plus une Europe de la solidarité. Et tous le disent, y compris les plus grands économistes, y compris les fondateurs de l'Europe, disent « mais ça c'est pas l'Europe. L'Europe, il y avait quand même un minimum de solidarité. » Bon, là, on l'a bien vu dans cette crise-là, on l'a bien vu, y compris pendant les négociations pour ce troisième plan, que cette zone euro, elle n'est pas démocratique parce que, effectivement, l'euro, c'est l'euro de l'économie la plus forte. C'est l'euro de l'Allemagne. Hein, c'est pas être nationaliste de dire ça. Mmh. Et donc, ça veut dire qu'effectivement, c'est l'Allemagne qui a refusé le plus la possibilité de résoudre un peu et de donner une respiration à la Grèce en annulant ne serait-ce qu'une partie de la dette. L'Allemagne ne veut pas venir sur le terrain d'accepter une annulation de la dette, alors que même le FMI, même le Fonds monétaire international, dit lui-même que c'est intenable, c'est insoutenable, etc. Sans parler du rapport dont, à la, auquel a fait allusion Eleni, c'est-à-dire il y a quand même eu, commandé par la, la présidente du Parlement, Zoé Constantinopoulou, il y a eu une commission pour la vérité sur la dette grecque, qui a travaillé pendant 3 mois d'avril à juin,
oui,
qui a rendu son rapport au mois de juin, et qui fait une démonstration, c'était une commission où il y avait, la moitié était composée d'experts de Grèce et une autre partie d'experts internationaux. Ce rapport, il est accablant. Il faut pas que les gens nous croivent sur parole. Il faut que les gens aillent voir ce rapport sur l'audit citoyen de la dette grecque. Eh bien, c'est une dette qui est illégale parce qu'effectivement, par exemple, le FMI a mis son nez dans la crise grecque alors que c'est pas de sa responsabilité.
C'est-à-dire que c'est que l'Europe aurait dû se débrouiller.
D'une part. D'autre part, y compris, il y a des aspects illégaux, puisque par exemple, en 2010, le mémorandum de 2010, il a été voté au Parlement sans que le Parlement ait les documents nécessaires, alors que c'est une obligation constitutionnelle que le Parlement devait voter sur un document officiel. Donc, ce que je veux vous dire, c'est que, et y compris, les mécanismes de la dette, ils sont flagrant, c'est-à-dire c'est une dette qui a profité à l'oligarchie, et c'est un mécanisme de la dette qui fait que ça a profité à l'oligarchie, ça a profité par le biais de l'armée, par le biais de l'armement, et on a des scandales dans la construction de cette dette. Cette dette est illégale, illégitime et insoutenable, c'est-à-dire qu'elle ne pourra pas être payée. Et donc la question, c'est pourquoi on s'enfonce dans des logiques qui font que de plan d'austérité en plan d'austérité, on n'aura pas une diminution de la dette, on aura une dette au contraire qui va augmenter, on aura un pays qui sera encore plus en récession. Donc la question, la vraie question, c'est pourquoi les instances de l'Union européenne acceptent ça. Et donc là, c'est la question d'où en est l'Europe aujourd'hui.
Tout à fait. Moi, je vais rebondir par rapport à ce qu'a dit Armand concernant Zoé Constantinopoulou. Je vous invite vivement à lire son discours qui a été fait auprès de l'ONU le 3 septembre dernier. Alors, je peux vous donner le lien. Vous allez directement au CADTM.org et vous tapez.
Donc le CADTM qui est
l'audit de la dette du tiers-monde. Et donc là, il y a le fabuleux discours de Zoé Constantinopoulou à l'ONU. Je vais vous faire très rapidement une petite synthèse. Elle le dit elle-même. La dette souveraine est utilisée actuellement contre la population. Et à la fin, lorsqu'elle dit « ce qui s'en est suivi est un cauchemar pour toute conscience démocratique et une honte », ce sont des mots qui sont quand même très forts et qui expliquent très bien la situation et la situation grecque et la volonté desiderata des financiers. Je ne vais pas tout vous lire parce que je préfère que les auditeurs et auditrices.
On pourra mettre aussi le lien sur le blog où on pourra aussi réécouter l'émission. Donc on pourra mettre aussi tous ces liens. Et justement, vous parliez de l'Allemagne, on parlait de cette question démocratique, on a eu l'impression que ce qui s'est passé notamment dans ce troisième mémorandum, on dit l'Allemagne a gagné même contre les autres pays de l'Union européenne, comme la France qui était plutôt, semble-t-il, à soutenir la Grèce. Et on peut se poser la question de qu'ont fait les autres pays. Après, en sachant aussi qu'il semble qu'il y ait des petits pays, notamment récemment arrivés en Europe, qui voyaient aussi très mal l'aide qui pouvait être apportée à la Grèce, si on peut encore appeler ça une aide.
Alors, si vous voulez, là-dessus, vous avez raison, vous posez une question de fond. C'est que le problème qui s'est passé, c'est que alors que la BCE et la Commission européenne ne peuvent pas participer à la décision politique par les statuts mêmes des traités, c'est eux qui ont négocié aux côtés de l'Eurogroupe, c'est-à-dire des gouvernements qui, eux, ont vocation à le faire. Et le FMI aussi.
Donc l'Eurogroupe,
les ministres des 14 pays qui ont des obligations au niveau de la dette grecque. Et de même, le FMI n'avait pas participé, or il a participé. Donc, c'est la notion de coup d'État, elle est claire. C'est vraiment, on s'est même assis sur la légalité des traités. Et donc, c'est un accord qui a été imposé par la coalition de l'Allemagne et de ses satellites, avec en plus les Pays-Bas, l'Espagne, le Portugal, l'Italie. Pourquoi ? Parce que ce soit en Espagne ou que ce soit en Italie, vous voyez, c'est en train de monter quand même. est en train de montrer une contestation des politiques d'austérité qui, en Espagne, au Portugal, comme en Grèce, font des ravages. Et donc, c'est une coalition qui s'est coalisée autour de l'Allemagne, avec la Belgique qui a suivi aussi, et Hollande, qui souhaitait un compromis. Il a été isolé, il n'a rien pesé du tout, et par contre, il a créé victoire. Et ça, c'est un vrai scandale. C'est un vrai scandale parce que Hollande a cédé à son principal ennemi, la finance. Il paraît que son principal ennemi, c'est la finance. Eh bien là, il a cédé, il n'a pas aidé, il a cédé, comme il avait déjà cédé dès le lendemain de son élection en 2012, puisqu'il n'avait pas, il a voté le TSGE, le traité constitutionnel européen, alors qu'il avait dit que, justement, il ne le voterait pas. Donc, on est dans des institutions européennes où le rapport de force, dans ce système intergouvernemental européen, il se joue de facto entre les pays les plus importants. Et donc, c'est le poids économique de l'Allemagne, c'est le poids de l'euro, et ça veut dire que comme on est dans une logique libérale, de la concurrence libre et non faussée, eh bien ça veut dire que les économies sont mises en concurrence, ça tire vers le bas, aux dépens des pays les moins compétitifs, dans la logique du système, et aux dépens, effectivement, d'un alignement vers le bas. Donc on tire tout vers le bas, et ce qui trinque, c'est effectivement les salariés, les travailleurs, les précaires, les chômeurs, etc. Donc on a un saccage de l'idée d'Union européenne, parce que c'est une dérive financière, et même les créateurs de l'Europe, ceux qui ont toujours soutenu l'idée européenne comme étant l'idée de la solidarité, même eux disent... C'est pas l'Europe qu'on voulait. Donc, on est dans une situation un peu dramatique aujourd'hui, accentuée par exemple avec le phénomène de l'incapacité de l'Union européenne à répondre à la question des réfugiés, par ailleurs.
Oui, il y a aussi cette.
C'est un autre dossier.
Traitera certainement bientôt dans une autre émission.
Voilà. Mais pour revenir au sujet, c'est-à-dire la question, elle est, je crois qu'il faut le dire, je sais pas combien, mais il faut le dire, qu'on a tous pris un coup derrière la tête. C'est-à-dire qu'après ce référendum de 60% qui refusait l'austérité, avoir Tsipras... Alors certes, encore une fois, hein, on n'est pas dans un univers où on distribue des bons points, mais certes, le couteau sous la gorge, le pistolet sur la tempe, tout ce que vous voulez, mais il a signé un truc qui est contraire à tout le mandat qu'il avait. Et donc c'est pour ça qu'il y a une crise importante qu'il ne faut pas cacher et qui fait que ça complique les tâches de solidarité. Mais ce qu'on veut dire, nous ici, et très fortement, c'est que plus que jamais, nous sommes solidaires du peuple grec et nous devons être solidaires du peuple grec parce que ce qui se passe en Grèce, et Eleni le dit, insiste, et je le redis aussi, c'est un laboratoire qui nous concerne tous. Et donc, il faut, en étant solidaire de la Grèce, c'est aussi pour nous qu'on se bat, pour que les dérives, les offensives des financiers qui veulent effectivement tirer en arrière avec des plans d'austérité généralisés en Europe, et ça se fait aussi dans tous les pays européens, il faut qu'on les stoppe.
Je vous propose de continuer après une pause musicale.
Σιγλής ο Χαμάν επέθανε ένα άσχα Χασικλής άιντε πεθάνε και να στερβήσεις και να σκάρα που σου κλείς αμάν αμάν άιντε πεθάνε και να στερβήσεις και να σκάρα που σου κλείς αμάν αμάν. Άιντε σαν πεθάνω καράβι φουτάρετε με στο
μαύρα ψάρια και το αρμυρό νερό. Αμάν, αμάν, άιντε να με φάνε οι γοργόντες και το αρμυρό. Στα φύλλα θα τα κάνω πόρεσκια. Ο χαμάν θα τα κάνω πόρεσκια. Άιντε να τα βάλω, κυρά μου, να περάσω. Να σου κάψω την καρδιά, αμάν, αμάν. Άιντε να τα βάλω, κυρά μου, να περάσω. Να σε πάρει η μυρουδιά, αμάν, αμάν.
Donc on se retrouve dans le grain de sable, donc toujours sur le sujet de la Grèce avec nos invités du comité de soutien au peuple grec. Donc là on parlait de toute la pression qui a fait que, justement, peut-être c'est à cause de ça que Tsipras a pris des décisions qui étaient à l'opposé de pourquoi il avait été élu et même et du référendum qu'il avait provoqué et qui était à 60% de plus de 60% de non, c'est que la telle pression et que la Grèce ne s'appartient plus. Et on parlait également la question de la solidarité, c'est aussi comment on peut faire quelque chose. Mais en sachant qu'on a un petit peu du mal à voir ce qui va se passer, notamment par rapport aux élections, parce qu'on avait aussi, je pense, comme beaucoup d'autres pays d'Europe, mis beaucoup d'espoir au fait que des gens comme Syriza soient élus, comme on parlait tout à l'heure de l'Espagne avec Podemos. Donc comment est la situation aujourd'hui, comment elle est ressentie?
Alors, très rapidement, comme vous le savez, les élections législatives anticipées vont se dérouler ce dimanche, donc le 20 septembre. Je ne tiens pas à vous cacher que la campagne est très dure, elle est virulente, elle est même très agressive. Et les gens, eux aussi, la population grecque est amère. En discutant toujours lorsque j'étais là-bas, les gens, il y a beaucoup de gens qui sont complètement tellement désorientés que eux-mêmes disent je ne sais pas si je vais aller voter. C'est quand même une première en Grèce, d'autant plus que le vote est obligatoire.
Mais par rapport à ce qu'on disait et tout ce qui s'est passé, ça peut effectivement ne plus faire croire en la démocratie.
Exactement, exactement. Et d'ailleurs, la pression qu'a mis la Troïka et la Commission européenne, justement, elle a tout fait pour tout annuler, pour tout abattre, que les gens soient complètement désorientés. Alors donc maintenant, bien sûr, on va attendre le résultat de ces prochaines élections. Mais voilà, il y a eu. Moi, ce dont j'ai peur, c'est que toutes les alternatives, parce qu'on sent qu'il y a des alternatives, on sent que ça bouge, on sent pas seulement en Grèce, mais
c'est-à-dire des alternatives politiques ou tout également sur le terrain.
Et puis même sur le terrain, je veux dire depuis 2010, depuis le début de la crise grecque, il y a des réseaux de solidarité qui se sont montés dans les grandes villes, notamment Athènes, Patras, etc. Il y a les gens, qui s'entraident. Il y a aussi des associations qui n'existaient pas auparavant, qui ont été créés depuis, en 2010, pour justement aider les populations qui sont les plus précaires, notamment les personnes âgées, les enfants qui n'ont pas forcément à manger. Il y a de plus en plus de sans-abri. Donc voilà, tout ça c'est mis en place. Donc c'est vrai qu'il y a quelque chose qui se passe, qui bouge. Et on va voir maintenant ce que cela va donner. Mais comme je dis, là, on peut pas encore trop s'avancer parce que on ne sait pas comment soit il y aura une bonne issue, mais je ne le crois pas. Soit ça sera vraiment très catastrophique.
Ça peut vraiment créer un déchirement dans la population grecque.
Je pense. Je pense.
Sur les enjeux de ces élections, effectivement, c'est un tournant. C'est-à-dire que le problème, on n'est pas dans. Je veux dire, nous, du point de vue du comité de solidarité avec la Grèce, nous, on ne donne pas des leçons. Hein, on a un point de vue, c'est-à-dire qu'on est pour une alternative à l'austérité. On est pour, y compris, garder le cap de l'internationalisme, de l'espace européen, mais effectivement une autre Europe, pas celle-là, qui vient d'échouer. Et on est surtout pour se démarquer. Il faut le dire, pour se démarquer des sirènes, des solutions nationalistes de l'extrême droite. Et il faut pas oublier effectivement qu'elle existe en Grèce et qu'elle est tapie dans l'ombre, etc. Donc effectivement, ces enjeux nous concernent tous. Et le problème, c'est de savoir, parce que les sondages donnent, enfin c'est des sondages, hein, mais les sondages donnent Syriza coude à coude avec y compris la droite.
J'en parlerai des sondages.
Mais ceci dit, les sondages, il faut faire attention. Et le problème, il n'est pas là. Le problème, il est que si on discute projet politique sans prétendre donner des leçons aux Grecs et à la gauche grecque et au peuple grec. Le problème, c'est Syriza dit j'avais le pistolet sur la tempe et écoutez, parce que c'est quand même incroyable. Tsipras a dit lui-même. J'ai signé un truc qui peut pas s'appliquer. C'est quand même, vous vous rendez compte dans quel univers on est, quoi. Bon, donc le problème, il dit, j'ai une petite marge sur 3 ans où on va montrer que on peut faire des choses et qu'en fait, on verra. Hein, beaucoup de gens ont des doutes. La preuve, c'est qu'il y a quand même eu, il y a des recompositions importantes en Grèce. Il y a d'autres partis qui se créent. Il y a des gens qui ont, voilà. Hein, donc il y a tout un bouillonnement. Donc de notre point de vue, ces élections, elles sont très importantes. Pourquoi elles sont très importantes? Parce que soit le peuple, on verra bien. Soit le peuple grec, il redonne une majorité à Syriza. Bon, on verra. Soit c'est pas une majorité, mais Syriza peut avoir une majorité en coalition avec d'autres forces. Mais lesquelles? Et le problème, c'est que pourquoi faire? Parce que de toute façon, il y a un plan d'austérité, hein, ça s'appelle plan d'aide, mais c'est un plan d'austérité qui s'applique. Donc, moi, simplement, ce que je veux dire, c'est que, je voudrais insister là-dessus, c'est si le peuple grec, si Syriza, si Tsipras en est arrivé là, il y a au moins un truc sur lequel on peut être tous d'accord, c'est qu'il a manqué de la solidarité autour du peuple grec en Europe. Et ça, c'est notre boulot. Mm-mm. Parce que c'était un pays, effectivement, qui pesait pas beaucoup dans les rapports de force, et dont on a voulu, effectivement, l'écraser pour montrer qu'il n'y a pas d'alternative. Donc nous, ce qu'on veut dire, quel que soit le résultat des élections de dimanche, plus que jamais, il faut des tâches de solidarité et montrer aux Grecs qu'ils ne sont pas seuls. Voilà. Et que le combat qu'ils mènent contre l'austérité là-bas, nous on le mène ici aussi, et on doit garder l'espoir qu'on peut avoir une alternative, puisqu'il y a des choses qui se passent. Hein. Par exemple, il y a des événements que personne n'attendait. Par exemple, le fait qu'il y a un leader de gauche dans le labour contre les libéraux, avec Corbyn, par exemple, ça c'était pas prévu au programme. Le fait qu'il y a effectivement des mouvements de gauche radicale qui apparaissent dans plusieurs pays, que ce soit en Écosse, que ce soit en Irlande. Il y a les enjeux des élections en Espagne. Il y a y compris, c'est dramatique parce que c'est pas directement l'Europe, mais c'est assez porte, c'est ce qui s'est passé en Turquie, où il y a eu un mouvement de la gauche radicale aussi, qui par les élections était une force, et que maintenant on essaie de détruire. Vous voyez, on a une situation effectivement très 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 chaotique, et de toute façon, il va falloir qu'il y ait des repères pour la solidarité. Voilà, moi c'est ça que je veux dire. Et que nous, notre rôle en tant que collectif de solidarité avec les Grecs, c'est être une boussole, qu'il faut une solidarité européenne avec le peuple grec, vu qu'effectivement il est en première ligne dans tout ce qui, la démonstration qu'on veut faire à travers lui, c'est que c'est pas possible que faire autrement que cette Union européenne et ses politiques d'austérité destructrices, quoi. Bon, moi je crois que c'est ça qu'il faut qu'on travaille.
Et
d'ailleurs on a fait des choses.
Oui, et puis pour compléter ce qu'a dit Armand, c'est vrai que notre rôle aussi de comité de soutien au peuple grec, c'est bien sûr, comme on l'a dit tout à l'heure, d'alerter informés, etc., mais pas que, puisque nous sommes rentrés en contact avec tous les comités de soutien au peuple grec au niveau national, dans tous les départements où cela existe. Donc on leur a fait un petit communiqué pour qu'ils se joignent à nous et qu'on essaye de mener des actions à dans nos différents départements, et essayer d'harmoniser tout ça et le faire entendre. Et quand je dis nous allons encore plus loin, c'est une fois que tous ces comités de soutien au peuple grec nous auront répondu. D'ailleurs, là, on a reçu quand même pas mal de retours positifs, hein, dans la démarche, notamment comité de soutien au peuple grec de Marseille, de Montpellier, de la Bretagne. Alors, j'ai plus tous les départements en tête, mais voilà, donc c'est quelque chose qui prend. Et pourquoi je dis qu'on va aller plus loin? Parce que nous souhaitons également envoyer un communiqué de presse à la presse grecque, avec les copains du comité, pour leur dire carrément, voilà, nous on est là, voilà ce que nous souhaitons faire, quelle que soit la situation, enfin les résultats du 20 septembre, nous serons là et nous le ferons connaître au peuple grec. Voilà.
Et puisqu'on peut dire aussi, si tu peux aussi le dire, Hélène, parce que toi tu y étais, on a distribué un tract à l'Institut Lumière à l'occasion de la soirée avec
Costa-Gavras. Alors effectivement, ça s'est déroulé le mardi dernier, donc le 15 septembre, devant l'Institut Lumière. Nous avons écrit une lettre ouverte à Costa Gavras pour lui expliquer qu'il y a un comité de soutien au peuple grec qui existe à Lyon, en lui disant, en lui expliquant déjà nos actions, qui sommes-nous, et bien sûr en lui souhaitant aussi la bienvenue à Lyon. Cette lettre ouverte lui a été remise en main propre. Donc voilà, nous attendons maintenant une réponse de sa part et voir aussi comment lui va pouvoir nous aider. Une autre action aussi qui va se dérouler, hein, toujours dans notre comité de soutien au peuple grec, c'est la venue de Éric Toussaint.
Donc qui est du CADTM.
Du CADTM.
Pour le comité d'annulation, pour l'annulation de la dette.
Voilà. Et le sujet, donc, c'est pourquoi la capitulation à une autre voie est possible. Donc, il va nous l'expliquer de vive voix. Sera présent également Michel Husson, qui est économiste. Donc, cette soirée est prévue le 20 octobre prochain. Alors, quant au lieu, on est en train de chercher un lieu actuellement. Et un autre projet aussi sur lequel nous sommes en train de travailler, qui va se dérouler le 14 novembre prochain, donc toujours nous sommes en train de chercher un lieu. Ce sera une soirée débat avec Yanis Yulantas, qui est sociologue à la base et qui a monté plusieurs documentaires. Et là, ça sera autour de son dernier documentaire, Je lutte donc je vis.
Et donc, dès qu'on aura les lieux, les dates, l'heure, donc on les mettra également sur le site.
Voilà. Juste rajouter une chose, c'est que l'initiative du 20 octobre, elle est assez importante et intéressante. C'est peut-être une première parce que c'est une initiative qui est à l'initiative du comité, dont on l'a dit, le CDATM, mais aussi le monde du diplo. Mmh. Mmh. Et on essaie de converger avec eux, c'est-à-dire de montrer qu'effectivement, il y a une convergence, quoi. C'est-à-dire entre l'action que fait le collectif pour l'annulation de la dette et le comité de soutien au peuple grec et les préoccupations du monde du diplo, mais c'est montrer effectivement qu'on doit travailler à des convergences dans la solidarité.
Puis c'est aussi la question, la solidarité, c'est aussi pouvoir donner une information juste à tous et à ceux qui sont loin, voilà. Et parce qu'on on fait confiance des fois à une information qui peut être biaisée, voilà. Et donc c'est aussi être avec des médias et donner de l'information la plus juste possible.
Voilà, puisqu'on s'aperçoit que cet été il y a aussi eu donc les cinémas en plein air, et donc il y a des copains du collectif qui on avait fait un tract quand même pour expliquer qu'il fallait être solidaire, expliquer la situation au cœur de l'été, et pendant tout l'été des copains sont allés dans le 8e et puis dans les projections publiques du cinéma gratuit. Mm-hmm. Et ils ont distribué. Et ils ont eu un accueil où on s'aperçoit que les gens, ils ont envie de discuter. Hein, donc la bataille de l'opinion, elle n'est pas perdue. Voilà ce qu'on dirait, on y croit. Et d'autre part, il y a aussi des choses de solidarité très concrètes qu'on veut mettre en œuvre. Il y a aussi des membres du collectif de Grèce, de soutien qui sont allés en Grèce cet été. Bon, il y a Eleni, mais il y en a d'autres aussi.
Il y en a d'autres, bien sûr.
Et ils ont pris contact avec des centres autogérés, avec bon, ils ont vu concrètement des dispensaires. Et donc, il y a l'idée de créer des jumelages, aussi de faire des actions très concrètes pour amener des médicaments, pour amener à porter, et en même temps faire des liens et montrer qu'effectivement, le peuple grec se prend en main aussi, et que, voilà, la solidarité, c'est aussi ça. Donc, je pense qu'on est devant des tâches de solidarité, et malgré le coup qu'on a reçu tous derrière la tête le 5 juillet, ce que je peux vous dire, c'est qu'on a eu une dernière réunion, la réunion de rentrée du collectif grec lyonnais a été une des plus nombreuses et une des plus dynamiques.
Tout à fait. La rentrée s'est faite d'une façon... très forte.
Et la solidarité et montrer son soutien, c'est aussi important par les futures élections. Quand on voit qu'il y en a déjà eu beaucoup et que ça n'a pas forcément... c'est pas pour ça que la Grèce justement, reprend le pouvoir sur elle-même. On peut se poser la question, ceux qui vont être élus, quel pouvoir ils auront. Quand on parlait appliquer, mais appliquer quoi? Est-ce que c'est eux qui appliquent? Donc c'est aussi garder cette solidarité pour que... on verra bien qu'il sera élu, et un véritable pouvoir, parce que j'imagine qu'on parlait d'abstention, les Grecs peuvent demander de toute façon quel pouvoir auront ceux qu'ils auront élus.
On verra bien.
Oui, et puis de toute façon, il ne faut pas se faire d'illusions. Le problème, c'est que la Troïka, ça ne la dérangera pas d'appliquer son plan d'étouffement de la Grèce, d'austérité, de vente à la découpe, sur le dos du peuple grec et des autres peuples, même s'il y a 25% de votants, ce que je ne souhaite pas. je pousse le bouchon, mais ce que je veux dire, c'est qu'on a une machine, d'institutions qui sont sur une logique financière et monétariste, et ça on s'aperçoit aujourd'hui que on est un tournant, il y a une crise de la construction européenne, il y a une crise, et donc ça pourra pas continuer comme ça 107 ans, c'est pas possible. Et là où votre question elle est une question très importante, c'est que les peuples à un moment donné les peuples, ils vont se réveiller. C'est pas possible. On arrive à des situations. C'est les droits fondamentaux qui sont atteints aujourd'hui. Et regardez, j'ai une note d'espoir quand même. Je veux dire, une note d'espoir et à la fois de c'est bon. J'essaie d'avoir un espoir dans une situation qui est terrible, quoi. C'est regarder ces phénomènes de réfugiés, de massifs aujourd'hui, ce flot de réfugiés qui fuient la guerre, qui fuient la crise économique et tout, dont ils sont absolument pas responsables. Regardez ce qui est en train de se passer. À la fois dans cette Europe, on a de nouveaux murs qui sont érigés, que ce soit en Hongrie, c'est affreux ce qui se passe, etc., au cœur de l'Europe. Bon, ça, c'est pas l'Europe, c'est pas le projet européen. Et par contre, regardez aussi, c'est-à-dire, vous avez des trucs où tout le monde dit, mais qu'est-ce qui lui arrive? Merkel qui dit, oui, il faut les accueillir, etc., mais enfin, quelques jours après, on referme donc, on voit bien qu'il y a un truc qui va pas. Par contre, il y a des élans de solidarité comme ça, qui retombe, et parce que ce qui manque, c'est une perspective, un horizon sur ce que pourrait être vraiment une alternative à ces politiques d'austérité. On fait croire aux gens qu'il n'y en a pas d'alternative. Et c'est bien ça le sujet, c'est que notre problème, c'est comment arriver à rendre crédible ça par des actions très concrètes, locales, qui montrent qu'on n'accepte pas la destruction du droit de l'existence des gens, et revenir sur l'idée d'une idée de construction d'espace de solidarité, et que des politiques publiques à l'échelle où ils doivent se mener, que ce soit à l'échelle locale, régionale, nationale ou européenne ou même mondiale, ces politiques publiques d'intérêt général, il ne faut pas lâcher. Et ça, c'est le rôle des politiques aussi, quoi.
Complètement.
D'ailleurs, en parlant justement de ces politiques publiques, parce qu'on a beaucoup parlé du gouvernement national grec, mais il y a aussi toutes les politiques qui se mènent au niveau local, par les collectivités territoriales. Aujourd'hui, elles n'ont plus de pouvoir non plus, ou plus d'argent d'ailleurs.
Il y a les deux. Déjà, les budgets sont revus à la baisse, bien entendu, et puis ces collectivités-là sont de moins en moins entendues. Elles n'ont plus... là, c'est pareil, on a un exemple flagrant, puisque là, on éloigne vraiment le peuple, les citoyens de je dirais, la place publique. Tout est fait en sorte voilà, pour éloigner un maximum, pour qu'il y ait juste une mainmise. Voilà, ça revient au même, hein, financière.
On veut éloigner le peuple des centres de décision, mais par contre, ce qui est positif aussi, par exemple, c'est que ici, là, la mairie du premier, par exemple, elle tient une permanence, hein, entre 17h et 20h, là, tous les jours, pour ceux qui veulent, les citoyens de l'arrondissement ou au-delà de l'arrondissement, qui veulent apporter une aide aux réfugiés, et quel que soit le réfugié, hein, politico-économique. Donc ça, c'est concret. C'est-à-dire qu'il y a la mairie du premier qui fait ça. Donc d'autres mairies peuvent le faire. D'autre part, vous avez par exemple la mairie de Villeurbanne qui a dit qu'elle accueillait quelques centaines de réfugiés, je crois que c'est 200. Vous avez le conseil régional qui a dit qu'il débloquait 500 000 euros pour qui mettait à disposition les locaux de l'ancien conseil régional à Charbonnière pour un accueil. Bon, donc, une chose, ça veut bien dire, et ça se passe un peu dans tout le pays, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tous ceux qui luttent depuis longtemps pour la solidarité avec les Roms, la solidarité aux sans-papiers, la solidarité avec tous ces gens qui sont chassés de camp en camp, etc., encore aujourd'hui, il y a eu des expulsions sur Paris et tout. Bon, eh bien, écoutez, toutes ces associations disent, mais enfin, il y a des locaux vides, il faut réquisitionner, etc., c'est ce que fait le gouvernement aujourd'hui, il y a des locaux. Donc, c'est bien un problème de volonté politique. Donc, je veux dire, là aussi, on a des choses à expliquer. On a des choses à expliquer que malgré le discours sur il n'y a pas d'argent, si, quand on veut, on peut, et il y a des moyens pour des politiques publiques qui sont des politiques de solidarité. Ça, c'est pas vrai. Et ça, on peut le démontrer, et il faut le démontrer. Et je crois qu'à l'échelle aussi des collectivités, malgré les politiques d'austérité où on veut leur dire on peut rien faire, non, s'il y a la volonté effectivement politique de mettre les citoyens dans le coup, je crois qu'on peut arriver aussi à des choses, quoi.
Mais justement, vous parliez de la solidarité qui se manifesterait par des soutiens aux alternatives qui ont pu être mises en place par des citoyens, par des dispensaires et tout ça. Ça concerne pas, c'est pas seulement une aide, on va dire, charitable, on envoie des médicaments. Ça veut aussi dire qu'on croit en ce que ces personnes-là font et qu'elles, c'est un véritable rôle, justement, humain, solidarité, réseau, création de, création de choses locales, en plus. Oui. Ça rejoint aussi cette question aussi, ça montre aussi ce qu'on arrive à faire très localement.
On peut, par ces actions concrètes, hein, je dirais, on prouve que ces autres choix qu'on essaye de mettre en place et qui aboutissent peuvent se développer de plus en plus. Et donc, c'est aussi une autre façon, une autre alternative, une autre manière de faire la politique, entre guillemets, parce que ça fait aussi partie de la politique. Donc, comme quoi, il y a des choix qui sont possibles et qu'on peut mettre en application.
Mais ce qui est dommage, c'est d'en arriver à ces extrémités pour les voir émerger.
Si vous voulez, voilà, on est, pour le dire autrement, on est dans un double mouvement. On est dans un mouvement de d'écœurement, de dépolitisation, quand on voit effectivement que des gens qui ont faisaient confiance, ben finalement, ils sont amenés à appliquer l'inverse de ce pourquoi ils ont été élus. Hein. Donc ça, ça désoriente, ça démobilise, et effectivement, ça, c'est pas positif. Et à côté de ça, on voit aussi que il y a aussi une autre façon de prendre en compte les enjeux de la cité, c'est de partir du concret, ce qu'on est capable de faire à son échelle, pour montrer qu'à partir des problèmes concrets, que ce soit un dispensaire, que ce soit aider les gens effectivement qui ont même pas les droits fondamentaux, comment on peut voir qu'il y a aussi des gens qui sont disponibles, se prennent en main et sont en capacité de redonner sens à ce que la vraie politique avec un grand P, c'est-à-dire c'est pas des histoires de partis, c'est pas des histoires électorales, c'est des histoires de solidarité, de droits fondamentaux et d'élever le niveau pour qu'une société soit en capacité de vivre en paix et tous ensemble et correctement. Voilà, c'est vraiment très politique.
Dignement.
Et dignement. Et je crois que ça, heureusement, tous les gens qui disent je fais pas de politique, ça, je pense qu'ils le partagent. Le problème, c'est comment leur donner envie de mettre la main à la pâte, quoi, à l'échelle où ils peuvent le faire. Bon, nous, on essaie de le faire au niveau d'un comité de solidarité avec la Grèce.
On essaie.
Et justement, Denis, toi qui allais en Grèce, est-ce que ça a pu aussi créer de la vocation politique chez chez des citoyens, ah bah, c'est-à-dire là... de rentrer à Syriza ou dans d'autres parties de...
Ah oui, oui, complètement. Bon, alors, rentrer à Syriza...
Ou d'autres parties, ou de créer ou... même des,
alors,
des comités...
Ce que je peux dire par là, enfin, dans le petit périmètre où j'étais, c'est vrai qu'il y a de plus en plus de gens qui se mobilisent pour diverses causes, justement, pour améliorer le quotidien des uns et des autres. Je l'avais déjà dit tout à l'heure, ça on l'a vu aussi dans les grandes villes, Athènes, Patras, etc. Donc, enfin, je vais plus parler des migrants, parce que c'est vrai que en étant sur les côtes de la mer Égée, on l'a vu au quotidien. Hein, c'est ce qu'on voit en vrai, ça n'a rien à voir avec ce qu'on voit sur les images de la télévision. On ne peut pas ne pas les ignorer, ces gens qui débarquent avec on voit des gilets de sauvetage qui sont dans la mer, des enfants complètement apeurés parce que ben ils ne comprennent pas ce qui leur arrive, des enfants de 5 ans. Moi, ça m'est arrivé de prendre par la main un enfant qui était complètement perdu parce qu'il retrouvait pas ses parents. Enfin, c'est terrible de voir ça. Et bien justement, là, les gens sont dans l'action, sont sur le terrain. Il y en a qui allaient aider ces migrants, d'autres qui leur préparaient, leur apportaient des croissants. Ce sont des gestes tout simples. Il y a des actions que les citoyens et les citoyennes sont en train de faire. Bien sûr, il y a une division. Alors, il y en a qui veulent participer à ces actions, qui veulent faire des choses concrètes, puis il y en a d'autres, ça ne les intéresse pas du tout. Hein. En tout cas, je peux dire que la majorité des gens sont, enfin, surtout là-bas, sont rentrés, je dirais, dans ce système de solidarité. Parce que la vie est tellement difficile que sans solidarité, on ne peut pas vivre correctement et dignement, comme l'a dit tout à l'heure Armand. Et
donc, on va faire en sorte que notre solidarité soit à la hauteur de l'exemple qui nous est montré.
On va essayer.
On va essayer, oui. Enfin, une chose qu'il ne faut pas perdre de vue non plus, hein, la situation en Grèce n'est pas du tout similaire à la situation française. Hein, c'est encore...
Oui, on n'en est pas là.
On n'en est pas là encore.
J'espère
mais
qu'on
pas. Je ne sais pas si vous souhaitez... Il nous reste quelques petites minutes, si vous souhaitiez conclure sur un point particulier, où on peut rappeler donc, les dates donc, à mettre dans les agendas. Il ne manquera plus que le lieu. Donc, le 20 octobre 2015, donc, une rencontre avec... Éric Toussaint
et Michel Husson. Ouais.
Donc sur la question plus spécifiquement de la dette.
Oui.
Et puis le 14 novembre, une soirée débat avec...
Yanis Yolantas, autour de son dernier documentaire « Je lutte, donc je vis ».
Et donc on mettra aussi donc, tous les liens. Donc vous avez une page Facebook. Donc
tout à fait.
En tapant... Comité de soutien au peuple grec, Facebook, qu'on doit trouver sans
voilà. Et puis, je répète notre adresse email, contact.cspg@laposte.net.
Et venez renforcer le comité de soutien, on en a besoin.
Nous avons besoin de tout le monde.
Encore un grand merci.
Merci.
Et on se retrouve donc dans 2 semaines avec une émission où on rencontrera Alternativa, donc pour parler changement climatique et Village des Alternatives qui se tiendra du 9 au 11 octobre à Lyon.
C'est bien.
Le grain de sable. Pensée globale. Une mission proposée par l'association Atacrone. Agir local. Le grain de sable.